France Inter.
It's Morning Edition from NPR News.
MCT's Andine Burhausi.
Halim, Radio Rosana Piparis.
Produce ghetto en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter, le 18-20. Journée spéciale. L'océan peut-il nous sauver?
Et un jour dans le monde, c'est donc un jour au sujet de la surpêche.
Avant, en mer, il y avait beaucoup de poissons et on le pêchait près des côtes. Maintenant, il faut faire des kilomètres et aller loin au large. Mais même là, on ne trouve pas grand-chose.
L'extrait d'un reportage au Sénégal signé Simon Martin que vous écouterez intégralement dans un petit instant au Sénégal où les pêcheurs donc rentrent les filets vides. Bonsoir Didier Gasquel.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur du Centre de sciences aquatiques et de la pêche à l'Agrocampus Ouest de Rennes. Vous êtes membre du Conseil scientifique des pêches de l'Union européenne. Vous nous expliquerez notamment d'ailleurs ce que c'est que le programme Transipêche que vous connaissez évidemment par cœur. Vous êtes en duplex chez nos amis d'ici Armorique qu'on remercie de vous accueillir. La surpêche, c'est donc l'un des grands enjeux. On le disait également dans le journal du sommet qui va s'ouvrir lundi prochain à Nice. Didier Gasquel, est-ce qu'on peut d'abord parler de stock tout simplement? Nous allons manquer de ressources, c'est-à-dire de poissons, au rythme qui est le nôtre. La réponse, j'ai l'impression qu'on la connaît. Est-ce que le temps de l'abondance est fini et bien fini?
Ah oui, clairement. Le secteur des pêches est vraiment un secteur dans lequel l'humanité, j'ai envie de dire, s'est heurtée, mais de manière violente et avec des dégâts, aux limites de la biosphère. Mm-hmm. Le maximum des captures à l'échelle mondiale, il a été obtenu en 1996, donc il y a maintenant bientôt 30 ans. Et depuis, les captures mondiales sont en stagnation, voire en régression assez nette, d'après certains chiffres. Et la raison en est... que effectivement les ressources se dégradent, qu'il y a de moins en moins de poissons dans la mer, on pêche moins, mm-hmm. alors que sur la même période, la puissance de pêche à l'échelle mondiale, elle a été multipliée par deux. Il y a de plus en plus de bateaux, de plus en plus gros, qui capturent finalement pas plus. C'est ça la situation de surpêche, c'est une situation dans laquelle on rajoute des bateaux, pour finalement détruire les ressources et pêcher moins à la fin.
Alors on va y venir. Dites-nous quelles sont les espèces qu'on ne trouve plus, qu'on risque de ne plus trouver à une échéance rapide. Peut-être qu'on va reconnaître ce qu'on mange, ce qu'on commande au restaurant dans ce que vous allez nous citer.
Oui, alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les poissons, en tout cas l'immense majorité des poissons, il y a le groupe des raies, des requins qui est un peu à part, mais l'immense majorité des poissons sont caractérisés par une fécondité absolument phénoménale. Mm-hmm. Une femelle d'un poisson, qu'il s'agisse d'une mort d'une baudroie, d'une sole, etc., pond à chaque ponte plusieurs dizaines et plutôt plusieurs centaines de milliers d'œufs. Et voilà. Donc ces espèces-là ne disparaissent pas en tant que disparition d'espèces comme on peut le penser, où c'est très rare et dans des situations très, très extrêmes. Par contre, elles tombent à des niveaux d'abondance qui sont très très faibles. Mmh. Et ça, c'est un problème à la fois pour le fonctionnement des écosystèmes, parce que j'ai envie de dire, les espèces qui sont à un niveau très faible, eh ben, elles jouent plus leur rôle dans l'écosystème, elles sont plus capables, de contrôler les proies, de nourrir les prédateurs, d'être en interaction, et on aboutit à des écosystèmes qui dysfonctionnent d'une certaine manière. Et puis, c'est évidemment très problématique pour les pêcheurs, parce que lorsqu'on a des niveaux très très faibles, eh ben, les pêcheries disparaissent. Un des exemples les plus forts de ça, c'est la morue, le fameux cabillaud, qui était l'espèce dominante de tout l'hémisphère nord, de tout l'Atlantique Nord, il y a quelques décennies, et qui aujourd'hui dérombait à des niveaux très très bas. Partout, toutes les populations sur le pourtour de l'Atlantique se sont effondrées. Se sont d'abord effondrées pour des raisons de surpêche, et de surpêche très forte. On a surpêché les morues en mer du Nord, en mer Celtique, etc. Et aujourd'hui, on essaye de mettre en place des mesures de plus en plus efficaces. Eh bien, ce qui arrive, c'est que l'effet de la pêche se cumule avec des effets du changement climatique. Mmh. Et effectivement, les consommateurs voient disparaître de des étals les morues de mer celtique et de mer du Nord. Quand aujourd'hui, vous voyez de la morue, c'est de la morue qui vient du nord de la Norvège, où il y a là d'autres populations mais qui sont importées, et donc plus du tout avec la même capacité de pêche sur nos côtes.
Didier Casquel, la flotte de pêcheurs, vous avez parlé des pêcheurs, la flotte de pêcheurs qui est la nôtre est plutôt faite de petits bateaux qui sont donc plus vertueux, mais les petits bateaux, de ce que j'ai lu, c'est 11% seulement de ce qui est débarqué en France. Ça veut dire 43% des captures, elles sont faites par des chaluts. Est-ce qu'on peut à la fois nourrir en poisson les populations, faire vivre les pêcheurs et diminuer la pêche aux chaluts? Est-ce qu'on peut faire ces trois choses à la fois?
Alors, c'est compliqué, et on va pas le faire du jour au lendemain, on va pas le faire d'un claquement de doigts, et on va pas le faire avec des interdictions. Mais oui, vous avez raison, les petits bateaux, souvent, ils sont effectivement relativement vertueux à la fois en termes d'impact environnemental, mais je dirais encore plus vertueux en termes de création de richesses et de création d'emplois. Ce sont les petits bateaux très nombreux qui créent beaucoup d'emplois et qui font vivre les ports, les bourgs, les villes. Moi, je dis souvent, la pêche, c'est pas seulement les pêcheurs, les marailleurs, les poissonniers, etc. D'une certaine manière, partout sur la côte, c'est aussi le coiffeur, l'instituteur, le garagiste, qui sont dans le bourg parce qu'il y a de la vie, et il y a de la vie parce qu'il y a la pêche. Donc cette petite pêche, elle est très très importante d'un point de vue d'aménagement du territoire, mais j'ai envie de dire aussi, d'un point de vue, elle porte des valeurs, elle porte une culture, etc. Ceci dit, vous avez raison, elle fait que des petits volumes. 11% en tonnage, un peu plus en valeur, 20%. Elle fait que des petits volumes et on pourrait probablement la conforter. On pourrait lui réserver, par exemple, la bande côtière. Je pense que c'est complètement absurde qu'il y ait des bateaux énormes qui viennent aujourd'hui pêcher dans la bande côtière. Mais même si on la conforte, elle fera pas le tout. Donc moi, je dis aussi, attention, on a aussi besoin des bateaux de taille intermédiaire.
Mais du coup, vous dites, pardonnez-moi de vous interrompre, vous dites pas avec des interdictions. Ça veut dire quoi, pas avec des interdictions? Ça veut dire qu'on n'interdit pas le chalutage. Par exemple, il y a une proposition de loi au Sénat qui viendra pour l'interdiction des chaluts qui sont de plus de 25 mètres. Donc est-ce qu'on n'interdit pas? Est-ce qu'on ne crée pas de quotas? Ou est-ce que oui, justement, il faut créer des quotas, notamment entre la pêche côtière et la pêche hôtière? Sans interdiction, est-ce qu'on y arrive quand même?
Alors, je pense clairement que le secteur des pêches, il est menacé aujourd'hui. Hein, il est menacé par la rareté de la ressource. Donc, engager la transition écologique, et j'ai envie de dire aussi sociale, du secteur des pêches, c'est une absolue nécessité, c'est une condition de sa survie. Et d'une certaine manière, on ne le fera pas en embarquant les pêcheurs. Mais oui, vous avez raison, il faudra à un certain moment des interdictions, il faudra, moi je crois beaucoup, aux mesures incitatives. Oui, effectivement, c'est pas qu'une question de chalut, pour le coup, tous les bateaux de plus de 25 mètres, moi je pense, devraient être exclus de la bande côtière. La bande côtière a vocation, peut-être pas demain matin, mais donnons-nous quelques années pour que les flottiers puissent s'adapter. Mais assez vite, la bande côtière devrait être réservée, effectivement, aux petits bateaux, à ces petits bateaux qui créent de l'emploi. Et puis les bateaux du large, eh ben oui, ils sont au chalut, et oui, le chalut a énormément d'impact. Non seulement il a énormément d'impact, mais de toute façon, il a un vrai problème de rentabilité. Aujourd'hui, au chalut, pour pêcher un kilo de poisson, il faut dépenser au moins un litre de gasoil, et dans les pires des cas, presque 2 litres de gasoil. Donc c'est plus rentable. Mais donc il n'y a plus d'avenir pour cette pêche-là.
Mais est-ce que ça veut dire, justement, s'il n'y a plus d'avenir pour cette pêche-là, qu'on peut encourager la pêche côtière d'une autre manière? Quand je vous comprends, au fond, j'ai l'impression que la rentabilité ne dépend pas de la grosseur du bateau, finalement. Elle dépend effectivement de la santé des espèces. Donc plus il y a de ressources, moins on a besoin de gros bateaux. Si on s'en sort bien, est-ce qu'on peut dire qu'un jour, on n'aura plus besoin des gros bateaux, Didier Gasquel?
Alors, je pense qu'on aura toujours besoin, en tout cas, des bateaux de taille intermédiaire, des 12 et 24 mètres. Les bateaux de moins de 12 mètres, ils n'ont pas le droit d'aller à plus de 20 000 décotes. 20 000 décotes, hein, c'est 35 km, c'est pas beaucoup. Et donc, ils ont vocation à exploiter les ressources de la bande côtière. Mais ça ne fait, même si on leur réservait ces ressources-là, ça ne fera pas l'ensemble des apports. Donc, oui, on a besoin de bateaux de taille intermédiaire pour aller pêcher les gros volumes qui se font aussi sur le plateau continental, qui alimentent les criées. Les criées sont un élément très, très important de l'écosystème de la pêche. Si les criées disparaissent, les petits bateaux seront difficultés. Donc on a besoin de ces bateaux de classe intermédiaire pour, s'ils disparaissent, imaginons qu'ils disparaissent, on pourrait dire tant mieux pour les écosystèmes. Oui, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On augmente les importations. Et si on augmente les importations, le bilan est évidemment catastrophique pour les pêcheurs, mais il est aussi catastrophique pour les écosystèmes. Donc, il y a la question des très très gros bateaux. Moi, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de très très gros bateaux. Aujourd'hui, vous avez des bateaux qui font 40, 60 mètres, 100 mètres, qui viennent pêcher en plein milieu de la Manche. C'est absurde, c'est une captation de la rente économique de la nature au profit de quelques intérêts de riches armateurs et non pas au profit de la société. Mais les bateaux de taille intermédiaire, on en a besoin. On en a besoin, et aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont impactants, c'est vrai que pas tous, mais il y en a beaucoup qui sont au chalut, et donc le grand chantier, moi c'est ce que j'appelle, et ce que tout un courant appelle, développer la pêche écologie, c'est-à-dire une nouvelle façon de pêcher. Et comment on entraîne ces bateaux qui aujourd'hui ont des impacts dans ce chantier de la pêche écologie? Eh ben oui, c'est progressivement, effectivement, faire qu'on crée des zones où on fait la démonstration qu'on peut pêcher autrement, qu'on peut pêcher à la ligne, on peut pêcher avec des nasses, on peut pêcher avec des casiers, dans certains cas on peut pêcher avec des filets, alors les filets posent aussi des questions quand il y en a trop, voilà, donc il faut, voilà. Mais il faut aussi créer du dialogue, il faut se mettre tous autour de la table. Moi, je crois que les pêches ne construiront pas d'avenir s'il n'y a pas un dialogue dans lequel on embarque les pêcheurs, mais dans lequel on a aussi un dialogue avec l'ensemble de la société, avec les organisations non gouvernementales, et puis nous, les scientifiques, on est là pour essayer d'amener les éléments et nourrir le débat.
Didier Gasquel, justement, c'est au Sénégal que je voudrais vous emmener, et vous pourrez réagir après, où précisément la surexploitation des écosystèmes marins a déjà des conséquences qui sont dramatiques. Il y a 600 000 personnes qui sont dépendantes de la pêche au Sénégal, c'est un chiffre énorme. Je vous laisse écouter le reportage de Simon Martin.
Au chant des pêcheurs affairés sur la plage, la valse des débarquements de pirogues commence. Mais à Soumbédiou, un quartier de pêche historique de la capitale sénégalaise, la prise du jour n'a pas de quoi réjouir.
Aujourd'hui, on n'a rien gagné du tout.
Mohamed Ndoye rentre à peine de sa journée au large, sans même décharger sa marchandise. Il sait déjà que le repas du soir sera maigre.
Avant, en mer, il y avait beaucoup de poissons et on le pêchait près des côtes. Maintenant, il faut faire des kilomètres et aller loin au large, mais même là, on ne trouve pas grand-chose. Une fois qu'on a payé l'essence pour aller en mer et la réparation des filets, il ne nous reste rien.
Un constat unanime chez les pêcheurs traditionnels. Parmi les causes, beaucoup pointent du doigt la concurrence de chalutiers industriels, dont beaucoup d'origine étrangère. Avec plus d'une centaine de navires actifs, cette flotte est l'une des plus importantes d'Afrique de l'Ouest. Un fléau pour les populations de poissons, notamment près des côtes, selon Issa Fall, président du comité de pêche de Soumbédioun.
Un seul chalutier pêche autant en une journée que les pêcheurs de Soumbédioun pêchent en une semaine.
Dans la zone côtière. C'est une zone de reproduction, c'est une zone de nurserie. Donc si on laisse continuer l'armada de la pêche industrielle, il arrivera un moment où on aura un désert aquatique.
Déjà, la population de certaines espèces de poissons a chuté de plus de 60% depuis les années 70, selon une étude du Centre de recherche océanographique de Dakar. Une baisse drastique devenue le moteur de la crise migratoire sénégalaise. Ils sont aujourd'hui nombreux à rêver de l'archipel espagnol des Canaries, comme Baïtiao, pêcheur de la grande banlieue dakaroise.
Je connais beaucoup de gens là-bas. Beaucoup de mes amis y sont partis. Pour certains, ça a changé leur vie. Après 2 ou 3 ans à travailler, aujourd'hui, ils envoient de l'argent pour construire leur maison. Alors forcément, quand on voit ça, on a tous envie d'y aller. Car ici, il n'y a plus rien.
Un rêve qui se termine parfois en drame, la route vers les Canaries fait chaque mois son lot de naufrages et de disparus.
Et merci à Simon Martin pour le reportage. Quand une des conséquences de la surpêche, c'est une crise migratoire, on voit à quel point on se tire une balle dans le pied. Didier Gasquel, on entend l'un des pêcheurs parler de désert aquatique à venir. Moi, je voudrais savoir quelle est notre responsabilité au fond, quel est notre rôle à nous, consommateurs, et en faisant quoi? C'est-à-dire refuser d'acheter un certain nombre de poissons dont nous connaissons la fragilité, refuser d'acheter lorsque nous savons que l'élevage est intensif, refuser quand nous savons quelles sont les manières dont les choses ont été pêchées, c'est quoi mon rôle à moi et mon assiette, au fond.
Ah, mais il est très fort, le rôle. Alors moi, j'ai travaillé en début de carrière au Sénégal, donc c'est une zone que je connais bien, et je suis absolument effaré, effectivement, par la situation. J'ai envie de dire, c'est presque pire que ce que votre reportage montre. Effectivement, les eaux sont un désert, mais c'est pire que ça. Il y a effectivement le pillage par des flottilles industrielles, il y a le fait d'une pêche artisanale qui est devenue folle, qu'on n'arrive plus à réguler. Vous l'avez dit, 600 000 personnes qui vivent de la pêche, c'est très très compliqué. Et puis, et là, c'est là que notre responsabilité va être très directement engagé, il y a le poids de la farine de poisson. Il faut savoir que sur toutes les côtes de l'Afrique de l'Ouest, se sont installées de grandes usines qui achètent aux pêcheurs l'ensemble de leurs captures, et notamment les sardinelles, hein, qui sont des espèces voisines, on va dire, de notre sardine. Plusieurs centaines de milliers de tonnes de sardinelles sont aujourd'hui achetées. Alors vous allez dire, bah, pour les pêcheurs, c'est un débouché. Oui, certes, mais qu'est-ce qu'elle devient, cette farine? Elle part aujourd'hui pour faire de l'élevage de saumon. Et auparavant, elle partait pour nourrir les populations de toute l'Afrique de l'Ouest. Il y a plus, à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, on est probablement à plusieurs millions de tonnes de poissons qui sont aujourd'hui pillés dans les eaux du Sénégal pour nourrir les saumons des riches. Donc oui, il y a un conseil assez simple, arrêtez de manger du saumon d'élevage. Le saumon d'élevage, il est nourri à la farine de poisson, il aggrave les problèmes de surpêche, et en particulier dans des pays comme le Sénégal, il est pour partie responsable, effectivement, de tous les problèmes économiques que vous évoquez, des migrations, etc. L'accord, il y a de la misère humaine dans le saumon que vous servez sur votre table.
L'accord mondial, Didier Gasquel, qui permettra de réguler la pêche, à l'occasion de ce sommet. Vous y croyez ou pas?
Alors malheureusement, les questions de pêche ont été d'une certaine manière retirées de l'agenda. On va à Nice parler de ce qu'on appelle les pêches illégales. Bon, alors c'est important, hein, c'est un vrai problème, les pêches illégales. Et tous les États vont essayer de prendre des mesures, et on peut que s'en féliciter. Mais j'ai envie de dire, c'était le minimum sur lequel tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord pour être en bonne santé, tout le monde est d'accord pour discuter. Ouais. Les questions qui fâchent...
D'accord sur ce que, sur quoi tout le monde est d'accord, quoi.
On se met d'accord sur quoi tout le monde est d'accord. Et les questions qui sont celles aujourd'hui, bah, notamment de la pêche française, de la pêche européenne, et je pense dans plein de pays, qui sont comment on définit la durabilité des pêches, comment on va à une approche qui prenne en compte le fonctionnement des écosystèmes, qui s'intéresse à la résilience de long terme, comment on va vers une pêche qui fait que les ressources sont résilientes par rapport au changement climatique. La situation est en train de complètement changer avec les impacts du changement climatique. Et ça, ça impose de repenser la gestion des pêches dans chacun des pays. Et malheureusement, je crains qu'on en parle très peu à Nice.
Repensez tout ça, Didier Gasuquel. Grâce à vous, merci beaucoup en tout cas de votre passage chez nous. La suite, ce soir, ça se passe en Roumanie, près de la frontière avec l'Ukraine. Vous allez voir que la lassitude de la guerre, elle se sent aussi côté roumain. Pour aller jusqu'à 19h, il y a Kevin Dufraîche sous les radars.
À Cuba, les factures de téléphone vont bientôt flamber.
Le Monde à 18h50 et Louise Baudet. Bonsoir Louise.
Bonsoir. Pourquoi les bras de fer se multiplient entre pouvoir politique et judiciaire européen? Enjeu, la politique migratoire.
Et Caroline Gillet, Caroline au pays des 27. Salut Caro.
J'ai visité la salle bunkérisée de la Commission.
Eh ben, elle est bunkérisée, visiblement. Les amis, à tout de suite. Le tour de la planète n'est pas fini. Il passe par l'Allemagne et la Turquie. Ailleurs aussi un petit peu, avec Derya, l'île d'Indrin et groupe Chimchek. Cool Hands, c'est dans la playlist de France Inter. Le reportage est en Roumanie ce soir, le long de la mer Noire, dans le delta du Danube, à la frontière avec l'Ukraine. Il y a 15 jours, le pays, vous le savez, a élu à sa tête un pro-européen, le maire de Bucarest, Nikos Urdan, face à l'extrême droite, résultat inverse à celui de la Pologne où nous étions hier. Un président réformateur donc qui se pose en rempart contre l'influence russe. Depuis le début du conflit en Ukraine, la Roumanie, pays membre de l'OTAN, joue un rôle discret mais essentiel pour Kiev, pour le transit des armes, pour l'exportation aussi des céréales. Mais à la frontière, les Roumains, eux aussi, sont épuisés par plus de 3 années de guerre. Et le reste, c'est Virginie Pironon qui raconte avec Paul Kosikian.
Pour atteindre le village de Tchatalkoï, 700 habitants avant la guerre, moitié moins aujourd'hui, il faut prendre un bac pour traverser un des bras du Danube. Ici, les ports céréaliers ukrainiens sont juste de l'autre côté du fleuve, à 200 mètres. Le maire de la commune, Tudor Tchernega, souhaite nous montrer en plein champ un trou recouvert de terre, l'impact d'un des drones Shahed tirés par la Russie très probablement depuis la Crimée voisine.
Il est arrivé en piqué, il a touché la cime des arbres, quelques branches et boum, directement de la frontière sur les maisons.
En une seule nuit, fin juillet 2024, comme en témoigne cette vidéo filmée par les habitants, 38 drones ont été lancés par la Russie sur le port céréalier d'Ismaïl. L'armée de l'air ukrainienne dit en avoir abattu 25, 3 ont été perdus de vue côté roumain.
Ils attaquent Ismaïl. D'après ce que j'ai compris, ces drones ont deux systèmes de guidage GPS. Et de leur côté, les Ukrainiens utilisent un système de brouillage. Une fois que le système du drone est brouillé ou que l'appareil est en panne d'essence, il part n'importe comment et voilà. Là-bas, le port, c'est un peu Beyrouth 2.
Daniela habite juste en face du port. On tient, dit-elle, jusqu'au jour où on ne pourra plus.
3-4 personnes sont encore parties ces derniers mois à cause des attaques plus fréquentes. Certains ont fait des crises de panique. Cela leur a rappelé leur enfance pendant la Seconde Guerre mondiale et ils sont partis.
Une catastrophe dans ces petits villages où l'économie est à l'arrêt. Plus de tourisme dans cette réserve de biosphère et pêcher sur le Danube, frontière entre l'OTAN et l'Ukraine, est devenu quasi impossible, même si cela n'empêche pas les déserteurs ukrainiens de traverser le fleuve. Installée sur la terrasse du café du village, Petrika nous explique en avoir aidé 3-2 semaines seulement avant notre passage.
Il était 5h30 du matin. Ils m'ont demandé où peut-on trouver la police en russe. Ils ont fait des papiers. Les 3 derniers voulaient aller en Pologne.
Et ça arrive souvent ?
Cet hiver, j'en ai aidé 5. Ils traversent en canot pneumatique ou je ne sais pas comment. Les 2 derniers sont arrivés plein de boue sur les baskets. Peut-être qu'ils sont aidés par des passeurs.
Dans sa ferme du village de Plaourou, Kostika Tanazé amarre sa petite barque juste en face des immenses silos à grains côté ukrainien. Des déserteurs, ce pêcheur, reconverti en garde forestier, en a vu passer. Il en a aidé au moins 10, dit-il en pointant du doigt les douaniers ukrainiens installés sur l'autre rive.
Au début de la guerre, j'en ai vu un qui était en train de se noyer là, juste au milieu du Danube. J'ai appelé le commandant de la police des frontières. Il m'a dit « si vous pouvez y aller, allez-y ». Je l'ai ramené sur la rive en bateau, il tremblait. Je l'ai emmené dans ma salle de bain. Et là, les Ukrainiens sont arrivés à toute vitesse dans une vedette de l'armée pour le reprendre. Notre police aux frontières est arrivée au même moment. Bonjour ! Et ils ne l'ont pas rendu. Le gars m'a remercié 10 fois. Ça s'est joué à un cheveu.
Un autre a eu moins de chance que lui, poursuit le pêcheur. Il a été frappé à coups de crosse et ramené en Ukraine. À plusieurs reprises, les autorités roumaines ont tenté de faire pression sur Kostika, qui, comme le maire, parle un peu trop, selon elle, des déserteurs comme des drones, sur une ligne de démarcation où le moindre dérapage pourrait provoquer une troisième guerre mondiale.
Oui, c'est possible. Mais moi, je dis ce que je vois. Alors que ça complique les choses ou pas, est-ce que je devrais me taire ?
Avant de se séparer, Kostika souhaite offrir à ses visiteurs des fragments de drones Shahed de fabrication iranienne. Avec tout ce que j'ai ramassé, poursuit le pêcheur en plaisantant, je pourrais en construire un moi-même.
Paul Kosygian et Virginie Pierronon pour leur reportage. Merci à tous les deux. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufraîche. C'est d'abord au Kenya que nous sommes, Kevin, avec un témoignage.
Oui, je préviens par avance, témoignage difficile où il est notamment question de violences sexuelles. Ce témoignage, c'est celui de Boniface Mwangi, militant kényan des droits humains, arrêté le 19 mai avec une autre activiste de nationalité ougandaise à Dar es Salaam, la capitale économique de la Tanzanie. Tous deux venaient soutenir le chef de l'opposition tanzanienne lors de son procès pour trahison, crime passible de la peine de mort. Et durant 3 jours, Boniface Mwangi a été torturé. J'hurlais tellement fort que je n'avais pas de larmes et que je ne pouvais plus respirer, explique-t-il en conférence de presse, les yeux embués, racontant comment il a été suspendu, tête en bas, par des policiers qui l'ont frappé, bâillonné avec ses propres sous-vêtements et violé. Des sévices terribles qui appuient le pouvoir autoritaire de la présidente Samia Suluhu, qui fait taire toutes les voix d'opposition en Tanzanie, notamment en écartant son principal concurrent pour la prochaine présidentielle prévue en octobre. C'est pour dénoncer cela que Boniface Mwangi a pris la parole publiquement hier depuis son pays. Après son témoignage, il conclut.
It breaks me. I'm not the same, but I know I'm gonna heal.
Ça m'a brisé, je ne suis plus le même, mais je sais que je vais guérir.
Nous voici à Cuba, où la facture de téléphone fait la une.
Oui, plus exactement, la nouvelle tarification de l'Internet mobile, qui n'est disponible dans le pays que depuis 2019. À Cuba, la téléphonie est un monopole, géré par l'ETEXA, la compagnie nationale de télécommunications, qui vient d'annoncer de gros changements. Les données mobiles dans un forfait de base payé en pesos cubains seront limitées à 6 gigas par mois. Désormais, ce n'est pas grand-chose, sauf si vous achetez des recharges en dollars. Depuis, tollé dans la société cubaine où le salaire moyen mensuel est de 16 dollars, qui va pouvoir se payer des recharges, se demandent beaucoup de Cubains qui dénoncent de surcroît un réseau qui marche très mal. En parallèle, ETEXA avertit que le hors-forfait va désormais coûter beaucoup plus cher. Le pouvoir autorise de plus en plus ces dernières années l'utilisation du dollar américain à Cuba, utile à l'État pour financer ses importations.
Et puis nous voici en Chine avec un drôle d'incident.
Oui, ça s'est passé à Xi'an, dans l'est du pays. C'est là que se trouve la magnifique armée de terre cuite. Vous avez forcément déjà vu des images de ces quelques 8000 statues de soldats et de chevaux enterrés représentant les troupes du premier empereur de Chine. Une œuvre monumentale classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui date du 3e siècle avant notre ère. Un site que l'on peut visiter, bien sûr. Et ce week-end, un touriste chinois a décidé d'aller voir cette armée de plus près, de trop près même, puisqu'il a escaladé une barrière de sécurité pour se retrouver au milieu des statues. Une scène filmée et postée sur les réseaux sociaux. Le monsieur est quand même tombé de plus de 5 mètres hein, et avant d'être évacué par les agents de sécurité, il a endommagé 2 statues. Les autorités locales de Xi'an affirment qu'il souffre de troubles mentaux, sans en dire plus, et qu'il fait l'objet d'une enquête.
Merci beaucoup Kevin Dufraîche. Vous partez en passant par le Royaume-Uni avec Tricky, Evolution, Revolution, Love. Revolution Love, signé Tricky. Vous êtes dans Un jour dans le monde et le monde à 18h50, c'est Louise Baudet.
How dare you?
World has changed.
Fabienne Saint-Es. Le 18-20.
Louise, le ton monte entre les gouvernements européens et les juges avec un enjeu, la politique migratoire et un totem qui vacille. Vous nous expliquez pourquoi les règles du droit européen sont aujourd'hui remises en cause.
Oui, d'abord ce bras de fer très actuel qui se joue en Allemagne. Le gouvernement maintient les refoulements aux frontières au mépris d'une décision de justice. Depuis l'arrivée au pouvoir du conservateur Friedrich Merz début mai et conformément à ses engagements de campagne, la politique migratoire s'est singulièrement durcie et l'Allemagne refoule des demandeurs d'asile à ses frontières sans examiner au préalable quel pays européen doit examiner leur demande. Ça, c'est la procédure dite de Dublin et c'est le droit européen. Ces refoulements sont donc illégaux, vient de décréter le tribunal administratif de Berlin. Mais le gouvernement allemand persiste et signe, au motif que le jugement est rendu sur un cas individuel. Jugement transposable à des cas comparables, a pourtant précisé le tribunal.
Et alors, que dit ce bras de fer entre le pouvoir politique et les juges ?
Eh bien, qu'importe la légalité, pourvu que le signal politique soit au rendez-vous. Ce signal, il tient en un chiffre, 2850 migrants refoulés aux frontières depuis le 8 mai. Et on va continuer, affirme le gouvernement allemand, prêt à essuyer d'autres revers juridiques et donc à reculer sur tel ou tel cas, mais sans lâcher l'objectif qui est de ralentir la progression de l'extrême droite, en apportant une réponse au sentiment anti-migrant qui s'est exprimé dans les urnes, quitte à affaiblir la force de la loi. Aux Pays-Bas, Geert Wilders, le Trump néerlandais, en a fait sa matrice politique. Wilders, qui vient de faire tomber le gouvernement auquel il appartenait, faute d'obtenir gain de cause sur un plan asile radical, plan impraticable car illégal.
L'argument, Louise, c'est que c'est aux politiques de décider qui peut entrer sur le sol national et pas aux juges.
Oui, c'est ce qu'avance notamment Giorgia Meloni. La première ministre italienne est en guerre ouverte avec la justice de son pays, qui a refusé à trois reprises le transfert de migrants dans les centres qu'elle a ouverts l'an dernier en Albanie pour y traiter leur demande d'asile. Ces juges italiens adossent leur décision sur celle de la Cour européenne des droits de l'homme, chargée de veiller au respect de la Convention européenne des droits de l'homme adoptée en 1950. Mais ce qui était juste hier ne l'est peut-être plus aujourd'hui, écrivent dans une lettre ouverte l'Italie et huit autres pays européens qui appellent la Cour à revoir son interprétation des textes ou comment réinterpréter les cadres juridiques existants jugés inadaptés aux défis migratoires contemporains.
Et alors, qui sont les autres signataires de cette lettre ouverte ?
Oui, c'est intéressant. Alors, il y a le Danemark qui dispose de l'arsenal le plus répressif d'Europe en matière migratoire, mais aussi l'Autriche qui a suspendu fin mars le regroupement familial, autrement dit le droit pour un étranger en situation régulière de faire venir ses proches. Suspension pour 6 mois avec prolongation possible jusqu'en 2027. Autre signataire, la Pologne qui a suspendu, elle, le droit d'asile, droit fondamental garanti par la Convention de Genève. Suspension de ce droit à sa frontière avec la Biélorussie qui pousse délibérément des migrants vers son sol pour semer le chaos. Suspension temporaire là aussi, mais le temporaire qui dure finit par tracer une nouvelle norme dans une certaine indifférence et au mépris de garde-fous juridiques jugés obsolètes.
Merci beaucoup Louise Baudet qui revient demain. Le mardi, Caroline Gillet pousse les portes de l'Europe et ses institutions. Cette fois, c'est même dans les profondeurs des secrets qu'elle a pénétré, toujours en frappant avant notre vie.
France Inter, le 18-20.
Et c'est vraiment, Caroline, cette semaine, les profondeurs de la Commission européenne.
Et oui, j'ai été dans leur salle bunkérisée. J'ai vécu ce qui, depuis le début de cette chronique, se rapproche le plus d'un film d'espionnage, mais version commission, donc tout doux et modeste. Avec Hugues Parmentier, il est assistant du directeur général de la DG Industrie, Défense et Espace. Il m'a fait visiter, mais d'abord, il faut bien sûr passer la sécurité. Je cherche donc...
Hugues Parmentier.
Hugues Parmentier.
Enfin, son nom de famille, c'est Parmentier, comme un Hachi Parmentier.
Ça va. Ben, pour l'instant, il n'y a rien.
C'est bon, non, le Hachi Parmentier.
C'est vrai que c'est pas mauvais, alors.
C'est un peu gras.
Il ne travaille pas au Berlaymont, l'emblématique bâtiment de la Commission, mais pas loin, dans un immeuble sans grâce qui s'appelle le Bredel. Et c'est trop la fête, en 2 ans, je n'y étais jamais allée.
J'ai l'impression que c'est comme une collection d'autocollants Panini, vous savez. Et j'avais déjà le Berlaymont, alors...
Hugues propose de descendre voir la pièce bunkerisée des sous-sols.
On va au 1.
Où il travaille une ou deux fois par semaine.
Moins 1. Alors c'est un peu particulier, le rez-de-chaussée ici, c'est le 5e étage.
Ah mais il y a toujours des spécificités dans tous ces bâtiments européens.
Bien sûr, c'est la maison qui rend fou. On va voir Luigi. Bonjour Luigi.
Bonjour Luigi. Les gens qui descendent ici, c'est pour quelle raison ?
Ils viennent consulter des documents, puisqu'on travaille sur les programmes de Galileo, de Copernicus.
On peut consulter ici des échanges top secrets avec Galileo, le GPS européen, Copernicus, le programme d'observation de la Terre, et aussi...
des documents liés au programme d'industrie de défense. Et donc Luigi, le gardien du temple, est là pour assurer la confidentialité.
Vous vérifiez qui rentre et qui sort ?
C'est ça, je leur mets à disposition les documents dont ils ont besoin, sur base du need to know, enfin du besoin d'en connaître.
Ah oui, voilà. Donc vous savez qui a besoin de connaître quoi ?
Exactement.
Et qui a besoin de connaître quoi ?
Ça, c'est les collègues. Ça,
c'est pratiquement une question philosophique.
Voilà, c'est pratiquement une question philosophique.
Voilà, on veut s'assurer qu'il n'y a aucune fuite. Donc, c'est très hermétique.
On laisse nos téléphones, nos ordi et bien sûr l'enregistreur dans des petits casiers qu'on ferme à clé. Et on entre dans la fameuse pièce. Voilà, on y est, on visite. Mais donc vous n'entendez rien, c'est normal. Et on ressort. Alors le débrief, c'est assez petit, il y a plein de portes blindées, un bouton rouge d'alarme à l'entrée. À droite, il y a un petit open space avec plusieurs ordinateurs. Et puis au fond, une salle de réunion, derrière une autre porte blindée.
Une des spécificités, c'est que tous les câbles sont apparents.
Oui, pour éviter qu'il y ait de l'espionnage ou qu'on puisse brancher quoi que ce soit sur les câbles.
Hugues est juriste et à la base, il travaillait à la direction générale, l'équivalent d'un ministère, à la DG Concurrence.
Où je faisais de la chasse aux cartels.
C'est-à-dire interdire les ententes sur les prix qui se font au préjudice des consommateurs.
Voilà, la chasse aux cartels, c'est la chasse aux tricheurs. Hein. Considérer que quatre types en cravate qui discutent des prix, c'est pas une réunion nécessairement, ça peut être aussi une scène de crime. Et que le délit des cols blancs est aussi grave que celui qui vous vole votre mobilette. Et souvent, d'ailleurs, il vous coûte plus cher.
Hugues est ici à la DG Défense, Industrie, Espace depuis seulement 3 ans, depuis le début de la guerre en Ukraine. En arrivant, il a dû faire une formation à la prise d'otages, par exemple, une chose qu'il n'imaginait sans doute pas en grandissant dans le Tarn.
Et c'est important de représenter ces régions rurales dans les organisations internationales. On est très organisés, d'ailleurs, les Tarnais. On organise des déjeuners de Tarnais des institutions européennes. Ouais. On admet même nos voisins du Tarn-et-Garonne.
La DG Défi, où Hugues travaille donc aujourd'hui, existe depuis 2019 seulement. Mais en 2022, quand la Russie envahit l'Ukraine, les 27 se rendent compte qu'il y a plusieurs problèmes avec leurs armées. Et même si la défense est une compétence nationale, cette DG Défi prend de l'importance.
Quand on a fait des dons aux Ukrainiens, on s'est rendu compte qu'on leur donnait 30 modèles de véhicules blindés différents, des canons très différents. Il a fallu avoir une réflexion commune. Et puis on s'est aperçu qu'on avait une difficulté de production. La grande spécificité de l'industrie de défense, c'est que c'est une industrie très nationale. Et donc, on veut produire ses obus de A à Z dans un État membre donné. Ce qui est, pour nous, du point de vue de la Commission, pas la chose la plus efficace.
Le 27 mai dernier, les 27 ont approuvé la création de SAFE.
C'est la Commission. On adore les acronymes et les jeux de mots, donc on en fait tout le temps.
Un programme d'achat commun en matière de défense de 150 milliards d'euros.
Inciter à l'achat conjoint. C'est-à-dire, non pas on vous dit quoi acheter, mais si vous voulez acheter, alors achetez ensemble.
Je vous explique la suite en chemin vers le bureau d'Hugues, qui se trouve au 13e étage.
Mais qui est en fait le 8e.
L'Ukraine a été intégrée à ce dispositif. La Norvège, le Canada, le Royaume-Uni et les pays des Balkans pourraient aussi rejoindre SAFE.
Voilà. Et on l'a vu par exemple avec la France et la Belgique. La Belgique a acheté un certain nombre de véhicules pour l'armée de terre, qui sont des véhicules français, et maintenant, l'entretien d'un véhicule belge peut se faire en France, ou l'entretien d'un véhicule français peut se faire en Belgique. Ça permet des économies d'échelle, parce que voilà, derrière la défense, il y a toujours des questions de budget, et on s'engage sur 30 ans. Donc quand vous achetez américain, vous êtes parti pour 30 ans. Ce qui est important, c'est qu'il faut acheter européen, donc ça va permettre aux États membres qui veulent d'acheter en commun, et d'avoir un effet de massification de la demande pour la production industrielle.
Voilà, merci au Tarn, merci Hugues.
Et merci Caroline. À mardi prochain, le 18-20, la suite, c'est le journal de 19h avec Hélène Philly, juste après le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefébure.
Bonsoir à tous.
Faut-il supprimer le bac, Philippe?
Parcoursup l'a-t-il tué? Mathilde, professeur de lycée, je constate un mois de juin bien triste depuis la réforme du bac. Plus d'émulation, plus de sentiments d'excitation.
01 45 24 7000 pour discuter avec nous, même chemin par WhatsApp.